Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. La médecine chinoise, vous connaissez ? C'est un système de santé global basé sur l'énergie vitale appelé le qi. Elle considère l'homme comme un tout et consiste à rétablir l'harmonie entre le corps et l'esprit. Il est très difficile d'établir une liste complète des bienfaits qu'elle peut apporter. La seule liste officielle existante ne prend en compte que les bienfaits de l'acupuncture, établie par l'Organisation mondiale de la santé dès 1979 et réactualisée en 2003. Elle comprend 43 maladies traitées sous test clinique avec l'acupuncture ainsi que les résultats obtenus pour chacune d'entre elles. En 2019, la médecine chinoise est introduite dans la classification internationale des maladies de l'OMS et figure donc parmi les remèdes reconnus au plus haut niveau. Depuis le 16 novembre 2010, date de l'inscription de l'acupuncture, moxibustion, au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Pour nous parler plus en profondeur de toute cette pratique qui est développée dans cette nomination de médecine chinoise, j'ai la chance de recevoir Pauline Ventroy, praticienne shiatsu et énergétique chinoise depuis plus de 10 ans aujourd'hui.
Bonjour Danielle.
Bonjour Pauline. Tu nous fais le plaisir de nous transmettre plus d'informations ici autour d'une pratique qui est connue, reconnue et pourtant méconnue, c'est ça ?
On peut dire ça comme ça, effectivement.
Est-ce que tu pourrais nous dire, au vu de toute cette introduction un petit peu redondante, qu'est-ce que c'est la médecine chinoise ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, la médecine chinoise tire ses origines à l'époque des civilisations proto-historiques. Donc en fait, c'est vraiment très très ancien. Cette période de civilisation proto-historique regroupe en gros trois dynasties. La dynastie des Xia, des Shang et des Zhou. Et ça s'étend de moins 1205 à moins 722. Et donc sur cette grande période, on a déjà retrouvé l'utilisation de l'acupuncture à travers des aiguilles de bambou ou des aiguilles confectionnés en os ou en terre cuite, ou même des petits piquants herbacés qui ont pu être utilisés à cette époque-là pour redonner la santé, en fait, aux individus, tout simplement. Alors, il ne faut pas oublier que la médecine chinoise, elle est basée principalement à cette époque sur le chamanisme chinois ancestral. À cette époque-là, on considérait que la maladie, c'était en fait un déséquilibre entre l'homme et puis le cosmos, tout ce qui se passait dans un milieu en fait invisible. Donc on allait voir le chaman pour essayer de rétablir cette bonne communication entre les esprits et l'individu, pour rétablir cet équilibre afin que la personne puisse retrouver la santé. Donc la médecine chinoise a longtemps été en fait mélangée à ce qu'on appelle la magie à cette époque-là. Et c'est un peu plus tard, à l'époque des royaumes combattants, on appelle ça cette période. C'est la période entre moins 500 et moins 221, que la médecine chinoise prend un vrai tournant vers une médecine scientifique. En fait, à cette époque, la perception de l'organisation du monde change. On s'aperçoit que les phénomènes naturels sont désormais en fait perçus en étant en interrelation, qu'il y a en fait des corrélations cosmologique entre les éléments. La médecine chinoise, en fait, elle est complètement calquée sur la vision que l'homme a de la nature. Ça, c'est important de le préciser, c'est-à-dire qu'une maladie chez l'humain, ça va être, par exemple, dû à du vent ou à du froid. Donc, c'est vraiment calqué sur les éléments de la nature. Donc, pendant cette période des royaumes combattants, donc, on a cette cosmologie, ces corrélations entre éléments qui apparaissent, et on se rend compte aussi qu'il y a des cycles, tout ce qui peut être observé et répertorié dans des almanachs pour justement bien faire ressortir les éléments de chaque cycle. Et donc c'est bien à cette époque qu'en fait va naître la théorie de l'énergie, la théorie du yin et du yang, la théorie des cinq mouvements, qui sont en fait les bases fondamentales de la médecine chinoise. Alors, la théorie du yin et du yang, en fait, ça va être plutôt un principe de classification, voilà. Et la théorie des cinq mouvements, ça se réfère à ce qu'on peut, voilà, ce que je vous disais, observer dans la nature. C'est-à-dire qu'on va tout simplement observer les mouvements qui se passent dans la nature, donc de montée, de descente, de sortie et d'entrée. Et on va les calquer à ce qu'on va observer dans la nature. Donc, si on considère, par exemple, le cycle des saisons, donc l'hiver, le printemps, l'automne, ça va donner en fait des mouvements L'hiver, on va plutôt être sur une involution. Au printemps, on va être sur une énergie qui va monter, sur une vivacité, sur de la croissance. Et donc, on va calquer en fait toutes ces choses sur le corps humain et du coup en déterminer la bonne physiologie ou la maladie.
Quand tu dis calquer sur le corps humain, donc on peut associer des parties du corps aux saisons, c'est ça ?
Alors, pas forcément des parties du corps, mais par contre, notre cycle humain peut se calquer aux saisons, c'est-à-dire que bah, à la naissance, on va être plutôt sur le printemps. Après, on va atteindre une certaine maturité, on va être plutôt sur l'été de notre vie. Et après, le déclin, on va passer vers l'automne et vers l'hiver de notre vie. Tout simplement, ça, c'est sur une grande échelle de notre existence, mais ça peut aussi se calquer sur une année, en regardant plus précisément un peu plus à la loupe.
Et dans ce cas-là, on peut y associer donc les éléments, ce que tu disais tout à l'heure, ce côté un petit peu chronologique, donc l'air, l'eau, donc tu parlais le rapport un petit peu par rapport à l'hiver, tu parlais ce côté un petit peu air, ce côté eau aussi qui peut être présent. C'est quoi ? C'est le fonctionnement de ces éléments qui fait une interaction ?
Alors, cette classification des éléments, on n'appelle pas vraiment les cinq éléments, on appelle ça les cinq mouvements. Parce qu'en fait, on est énergie. Notre forme, notre corps est une énergie matérialisée. Mais à l'intérieur de nous, il y a aussi une circulation d'une énergie immatérielle. Et donc cette classification des cinq mouvements définit en fait les mouvements énergétiques dans le corps. Comment je peux me faire un peu plus comprendre ? Les mouvements dynamiques, ça va être la vivacité, l'activité, la lenteur, l'évolution, la stagnation, tout ça c'est des mouvements énergétiques.
Qui vont nous guider finalement, qui vont nous maintenir dans un rythme de vie, qui sont interdépendants les uns des autres et qui font que nous sommes vivants, c'est ça ?
Oui, oui, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça va nous donner aussi la physiologie et la pathologie. C'est-à-dire qu'une énergie qui stagne, puisqu'on peut être dans une période de vie ou dans un contexte un peu de stagnation, ça peut être normal. Mais si ça reste trop longtemps, là, on va passer sur une pathologie. Il faut entraîner du mouvement. Toutes les formes d'énergie ont lieu d'être, elles sont saines, c'est comme les émotions, toutes les émotions sont saines, mais seulement il faut qu'elles puissent circuler et aller librement.
D'où l'intérêt justement, cette approche beaucoup plus cosmologique, comme tu le dis, au niveau du rapport entre les saisons et la santé.
Si je voulais reprendre un exemple entre le corps humain et la nature, on peut prendre un exemple assez grossier, par exemple d'une forêt tropicale qu'on va priver d'eau. Ou que la quantité d'eau des moussons sera insuffisante. Cela va entraîner un déséquilibre au niveau de la flore et au niveau de la faune. Donc un déséquilibre de cet écosystème. En provoquant certainement la disparition de certaines espèces ou de certaines variétés végétales. Et bien en fait, dans notre corps, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que s'il nous manque des éléments, il peut y avoir une rupture. Si notre alimentation ou notre hygiène de vie est déséquilibrée, notre corps dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il soit physique, émotionnel ou intellectuel, va s'adapter. Mais il va s'adapter jusqu'à une certaine limite. Quand cette limite va être atteinte, eh bien, le corps ne pourra plus s'adapter et on va basculer justement vers un dysfonctionnement. Et on verra apparaître ce qu'on peut appeler des signes et ce qu'on appelle communément des symptômes. Donc si on a une alimentation qui est mal adaptée sur une grande durée, une grande période de notre vie, on va après avoir peut-être des troubles digestifs, des douleurs ou des distensions qui peuvent apparaître chez certains individus.
On peut dire que les médecines traditionnelles chinoises ouvrent un spectre de perspectives, d'approches différents, plus universelles par rapport à l'environnement et à l'être.
En fait, la médecine chinoise, c'est une médecine holistique. Donc, elle prend en considération l'être humain et son ensemble. Son ensemble en tant qu'être, mais aussi son ensemble dans son environnement. Ça aussi, c'est important de le considérer. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui vient vous voir pour l'aider parce qu'elle est stressée, bon, d'accord, on peut lui faire un shiatsu, on peut lui faire un travail en énergétique chinoise, mais si on n'enlève pas les facteurs qui créent le stress chez cette personne, c'est-à-dire soit un environnement familier, soit un environnement au travail, c'est bien, on va la soutenir, mais la cause, elle sera toujours présente et la personne aura toujours des symptômes de stress derrière, quoi.
On est encore là sur des principes de cause-conséquence, le mouvement de la vie, tout simplement. Aujourd'hui, donc, tu nous parles des grands principes, des grandes diagonales. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va aller consulter un praticien en médecine chinoise ou en énergétique chinoise, quels pourraient être les symptômes ou l'état de venir à une consultation?
Ça, c'est très très large. Ça peut être des troubles d'insomnie, des troubles digestifs, ça peut être sur des plans émotionnels. Il n'y a pas vraiment de spécificité. Enfin, je ne peux pas vous dire que la médecine chinoise, c'est que pour les personnes qui ont des problèmes digestifs. C'est très très large au niveau de l'application, puisqu'à partir du moment où il y a un déséquilibre de la circulation de l'énergie dans le corps, à partir de ce moment-là, il va y avoir un certain nombre de symptômes qui vont être très divers d'une personne à une autre. Deux individus peuvent avoir un même déséquilibre énergétique et présenter différents symptômes. Et pourtant, on fera le même traitement. Ce qui est complètement différent avec la médecine actuelle. Enfin, chaque traitement pour le traitement de l'hypertension sera différent d'un traitement des problèmes digestifs, par exemple. Alors que nous, si on arrive sur le même signe, sur le même déséquilibre énergétique, on va pouvoir utiliser les mêmes points pour aller vers ce rééquilibrage énergétique. Il ne faut pas oublier que la médecine chinoise, en fait, nous, on va proposer au corps de tendre vers son nouvel état d'équilibre. Ce n'est pas une médecine thérapeutique dans le sens où je vais agir pour te guérir. Je vais, en fait, agir pour stimuler tes capacités d'auto-guérison. Je te propose un chemin, tout simplement. Et après, on encourage l'organisme à revenir vers la santé.
Et c'est là où c'est intéressant, justement, cette approche de médecine chinoise, dans la mesure où elle est relativement identifiée par l'OMS. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, elle est validée par l'Organisme mondial de la santé. Ce n'est plus une pratique mise en marge avec l'appellation juste holistique. On est sur une pratique ancestrale, oui, qui a des millénaires, comme tu l'expliquais au début, et qui est réellement posée. Et aujourd'hui, cette approche, même si on va parler d'énergétique, ça reste une médecine dans le sens où ça apporte un soin à la personne, dans le principe d'auto-guérison, c'est ça?
Oui, on stimule les capacités d'auto-guérison. Ce qui est intéressant, c'est que la médecine chinoise, elle est enrichie de tous ces millénaires, c'est-à-dire qu'on n'a jamais jeté tout ce qui avait été fait avant par les ancêtres chinois et par toutes ces données qui ont été en fait enrichies siècle après siècle. Ce que nous on a fait, et ce qui est à mon sens une erreur et dommage, c'est qu'on a un peu jeté toutes nos médecines populaires et traditionnelles pour la nouvelle médecine moderne sur une certaine période. Alors que eux, ils n'ont jamais cessé d'enrichir tout ça. Et ce qui donne aussi cette qualité de ce qu'est la médecine chinoise aujourd'hui.
C'est ce côté de fidélité aux méthodes ancestrales, aux pratiques ancestrales, et qui apporte cet enrichissement, comme tu le dis, c'est une démarche plus philosophique même.
Alors oui, bien sûr, Confucius a énormément influencé autant la philosophie chinoise que la médecine chinoise, tout à fait. Et il y a aussi ce côté d'hommage aux ancêtres, c'est qu'il y a c'est vénéré. Tout ce qui était fait avant, ça a une grande valeur.
Aujourd'hui, quand on va dans un accompagnement en tant que particulier qui souffre de symptômes et que l'on va voir un praticien en médecine chinoise, finalement, on est dans ce prolongement de savoir et de philosophie.
Bah, en tous les cas, oui, c'est que la médecine chinoise d'aujourd'hui est le résultat de tous ces siècles accumulés.
La théorie, c'est bien beau. L'histoire, c'est intéressant. Mais pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais expliquer comment se déroule une consultation? Et déjà, est-ce qu'il y a une consultation type?
Alors, une consultation type, non, pas vraiment, puisqu'en fait, ça dépendra de chaque praticien et de leur spécialité. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez aller voir un praticien qui va établir un bilan énergétique afin de déterminer où vous en êtes et quels sont les systèmes énergétiques qui sont en déséquilibre. Alors ça peut passer par différents outils comme la prise des pouls, l'observation de la langue, la palpation abdominale, la palpation des méridiens. Voilà, il y a différents outils et puis aussi bien sûr l'échange oral de vos symptômes, de vos états émotionnels. Tout ça, ça va nous amener à préciser pour aller dans une direction, déterminer un fil conducteur de quel organe, quel système énergétique on va devoir soit dynamiser, soit apaiser. Et après, une fois ce bilan énergétique établi, chaque praticien va utiliser des outils pour ramener l'équilibre. Donc ça peut être soit la digipuncture, soit l'acupuncture, soit la pharmacopée chinoise, soit le massage Twina, qui est spécifique aussi.
C'est quoi le massage Twina?
C'est le massage chinois. En fait, en médecine chinoise, vous avez trois grands volets de pratiques, même plus en fait, on peut l'étendre. Vous avez l'acupuncture, la pharmacopée, le massage Twina, vous avez aussi la diététique, et puis tout ce qui va être exercice de santé, tout ce qui est Qigong ou Tai Chi. Tout ça, ça regroupe la médecine chinoise. Donc ça veut bien dire que ça prend en compte la globalité de l'être dans tout ce qui peut être.
On est sur cet environnement d'action, hein, dans les exercices, dans l'environnement par rapport à soi, mm-hmm. et l'environnement alimentaire. Donc tu parles de nutrition. C'est quoi l'approche nutritionnelle?
La diététique chinoise? C'est des conseils sur l'alimentation pour venir en fait travailler sur des zones énergétiques. En fait, il y a 5 grands centres énergétiques en médecine chinoise qui sont représentés par le feu, l'air, le bois, qui va se référer à différents organes. Par exemple, pour le feu, c'est le cœur, pour la terre, c'est la rate. Donc nous, on va venir voir ces systèmes énergétiques, dans quel état ils sont. Et en fonction de leur état, on peut donner des conseils alimentaires pour venir les tonifier, voilà, venir en fait donner une information pour qu'ils aillent mieux, tout simplement.
Et quand tu parles de conseils alimentaires, est-ce qu'ils peuvent être adaptés à notre alimentation occidentale?
Bien sûr. En fait, en diététique chinoise, chaque aliment a une nature et des propriétés, que ce soit des aliments que nous consommons, nous, en Occident, ou que eux consomment en Chine. Donc on peut retrouver ces propriétés et ces empreintes énergétiques des aliments, même par chez nous. Je veux dire, une tomate a une empreinte énergétique. Et les aliments sont thérapeutiques.
Je veux juste poser une question. Peut-être que nos auditeurs se posent. On peut entendre, face à l'acupuncture, parce que ça reste l'identification première des médecines chinoises dans notre petit Occident, l'acupuncture, beaucoup de personnes se freinent à y aller parce qu'il y a les aiguilles.
Oui.
Est-ce que ça fait mal?
Ça peut.
Vous voyez, elle est honnête.
Tout dépend du praticien, tout dépend de la zone anatomique qui peut être poncturée. Je veux dire, si vous mettez une aiguille sur les extrémités, c'est-à-dire sur un doigt ou sur un orteil, c'est forcément plus sensible qu'au niveau de la cuisse, puisqu'il y a beaucoup plus de récepteurs nerveux.
Alors, je crois savoir que la taille des aiguilles est relativement infime.
Oui.
On est très loin de l'aiguille de la prise de sang.
Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais après, je veux dire, au-delà de l'acupuncture, il y a aussi un travail sur les méridiens qui peut se faire manuellement. Donc, en Chine, voilà, je vous ai dit, il y a le Twina. Après, tout ce qui va être médecine japonaise, on parle plus du shiatsu, où là, voilà, on va travailler en digipuncture, puisqu'en fait, on parcourt l'ensemble des méridiens par des pressions du pouce ou des mains. Et par ces pressions du pouce, on peut aussi travailler certains points d'acupuncture en tonification ou en dispersion. Donc ça, c'est une bonne alternative à l'acupuncture pour toutes les personnes qui peuvent avoir peur des aiguilles. C'est-à-dire que c'est un travail manuel.
Est-ce qu'il y a des contre-indications à toutes ces approches? Au niveau de la santé, est-ce qu'il y a des états symptômes ou des pathologies qui...
Non.
En dehors de la peur des aiguilles, bien sûr.
Voilà, non, il n'y a pas... A priori, il n'y a pas de contre-indication, ça peut être pratiqué à tout âge, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de limite d'âge?
Non.
Nouveau-né, personne âgée?
Pas de souci. Il faut aller voir des personnes après qui vont être spécialisées. En général, sur les nourrissons, on va plutôt travailler en twina pédiatrique. Donc il faut aller voir une personne qui va être spécialisée dans ce domaine-là.
Donc qu'est-ce que ça apporte aux nourrissons, par exemple?
Tout ce qui va être problème de sommeil, et puis tout ce qui va être souci de digestion. Il y a beaucoup de troubles digestifs chez les nourrissons. Donc là, on peut faire un accompagnement intéressant.
Et majoritairement, quelles peuvent être les démarches quand on va justement voir un praticien en médecine chinoise? Au niveau de la santé, c'est de la douleur, c'est un bien-être régulier, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une démarche particulière de la part des patients?
Il y a toujours une démarche particulière en fonction de chaque personne. Après, le tout, c'est de la cibler, mais en général, il y a toujours un motif de consultation. Donc après, c'est très variable.
Tu parlais de shiatsu tout à l'heure. Mm-hmm. Tu es praticienne toi-même shiatsu?
Oui.
À l'usage. En détail, quels sont les bienfaits du shiatsu?
On reste sur une pratique qui se base sur les principes de la médecine chinoise. Donc on a une action qui va être à la fois visée thérapeutique, si la personne vient pour des raisons particulières. On peut être sur un travail à visée préventive, puisqu'on va favoriser une bonne circulation de l'énergie, un bon équilibre énergétique au niveau du corps. Donc la personne sera plus à même aussi de se défendre ou face à une attaque, un rhume ou des choses comme ça.
Une attaque bactériologique, une épidémie.
Oui, voilà, si on reste sur ces facteurs-là, ou même sera plus à même de garder son équilibre sur des maladies plus dégénératives. Ou sur des maladies à plus long terme. Donc voilà, on peut faire du thérapeutique, de la prévention. Et après, il y a aussi ce côté manuel qui apporte un côté aussi relaxation, bien-être, qui peut être intéressant. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on travaille aussi sur les émotions, puisqu'en médecine chinoise, le corps et l'esprit sont liés, en fait. Ça ne forme qu'un seul et même système. Donc il y a des personnes qui peuvent venir aussi pour des états d'anxiété, des états d'angoisse ou de stress, qui peuvent être bien accompagnés sur des méthodes manuelles, en fait.
Et sur les pathologies lourdes, par exemple, je pense à des pathologies comme des cancers, des fibromyalgies ou l'endométriose, notamment de l'épilepsie. Est-ce qu'il y a des accompagnements possibles en complémentarité ?
Oui, mais là, ça sera vraiment de l'accompagnement complémentaire. On ne va pas guérir les personnes de ces maladies lourdes. Mais par contre, on peut les accompagner. Quand il y a des douleurs, quand il y a des troubles, pour favoriser le sommeil, hein, parce que c'est des personnes qui peuvent avoir des troubles du sommeil. Donc, et voilà, les accompagner petit à petit à essayer de faire face à la maladie en les aidant.
Une séance de shiatsu, comment ça se pratique ?
Alors, de la même manière que tout à l'heure ce que je vous ai décrit, on fait un bilan énergétique et ensuite on passe à la pratique. Donc la personne en shiatsu peut être soit sur une table, soit assise, soit allongée au sol. Ça dépendra de chaque praticien. Ça se pratique sur des personnes qui sont vêtues. Et à priori, le praticien va parcourir tout le corps du patient par des pressions des pouces et des mains. Dans cette visée, communiquer au méridien de rétablir un certain équilibre, quoi, de favoriser cette circulation du chi à l'intérieur du corps.
Cette énergie vitale, comme on a vu au début. Parce voilà. Que le chi n'est peut-être pas familiarisé pour tout le monde non plus.
Oui, et puis il peut y avoir différentes appellations. On peut appeler ça des fois le souffle. Le ki, parce qu'en fait en médecine japonaise, puisque le shiatsu vient du Japon, on appelle ça le ki et pas le chi. Voilà, il peut y avoir différentes appellations pour dénommer cette énergie.
Finalement, plutôt que d'appeler médecine traditionnelle chinoise, on aurait pu appeler médecine traditionnelle d'origine asiatique. Dans son ensemble.
Oui, après il y a plein de variations. Hein. La médecine, l'acupuncture thaïlandaise ou vietnamienne va être certainement encore très différente de celle de la Chine, qui est différente de celle du Japon. Et au sein même de la Chine, je pense qu'il y a des variations, puisque c'est tellement vaste, que du nord de la Chine au sud de la Chine, la même acupuncture ne se fait pas, ou les mêmes soins ne sont pas identiques. Quoi.
Quand et pourquoi faire un soin de shiatsu ? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir des symptômes ou juste en entretien dans cette conscience de santé ?
Comme je vous l'ai dit, ça peut être fait de manière préventive. Donc il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir des problématiques pour venir en séance de shiatsu.
Et au niveau de la durée, ça dure combien de temps ?
Environ une heure. À une heure et demie, en fonction des personnes et des besoins. Déjà, le temps que la personne arrive, s'il y a beaucoup de verbalisation, s'il y a beaucoup de travail à faire sur la personne, ça peut durer jusqu'à une heure et demie.
Cela fait beaucoup d'informations pour nous tous. Si vous souhaitez retrouver Pauline Ventroix pour plus d'informations autour des médecines chinoises, ou si vous souhaitez découvrir les soins en accompagnement shiatsu, avec elle, vous pouvez la retrouver au cabinet Claude Duras à Luzèche.
Oui.
Mais également tout simplement via Google.
C'est ça. Et je propose aussi des séances à domicile pour les personnes âgées ou qui sont en impossibilité de se déplacer.
Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Un grand merci à toi, Pauline, de ta présence au micro.
Merci beaucoup, Danielle, à toi.
Je vous souhaite à tous du sourire dans votre tête et du soleil dans votre cœur. Et je vous dis à très vite. Au revoir.
Au revoir, merci.
风吹影儿走，情在心中留，往事一去不回头。夜深的时候，是想你的时候，点点 点滴滴在心头。明月几时有，爱在心中求，干了这杯相思的酒。心醉的时候是想你的时候，举杯消愁愁更愁。谁能解开这相思的愁，匆匆，谁又能不让爱随波逐流？谁能解开这相思的愁？谁又能把这红尘看透？枫叶翩翩飞，又是一个秋，偏相思涌心头。在心中求，干了这杯相思的酒。心醉的时候是想你的时候，举杯消愁愁更愁。谁能解开这相思的愁？匆匆，谁又能不让爱随波逐流？谁能解开这相思的愁？谁又能把这红尘看透？枫叶翩翩飞，又是一个秋，偏偏相思心头。谁能解开这相思的愁？谁又能把这红尘看透？人世间的情来去匆匆，谁又能不让爱随波逐流？相思涌心头，偏偏相思涌心头。